In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Le premier podcast intime sur l'argent.
Moi, ce qui m'a intéressé, c'est tout cet aspect plus normatif. Il y a des bonnes et des mauvaises manières d'accumuler. Et ça, les gouvernants ont très tôt distingué la richesse qu'il fallait taxer et celle qu'il fallait protéger. C'est central dans la construction de l'impôt sur la fortune. C'est pas qu'un impôt où on taxe à partir d'un certain seuil. On taxe la richesse qu'on n'aime pas et on protège à l'inverse une autre, d'autres formes, d'autres manières d'accumuler.
Ah, si j'étais riche. Ah, et si vous étiez riche. Mais si vous étiez riche, est-ce que vous me le diriez? Si vous étiez riche, est-ce que vous n'auriez pas envie d'être plus riche encore? Est-ce que vous ne le diriez pas, comme on l'entend parfois, que en France, on n'aime pas les riches? Et si vous étiez riche, est-ce que vous seriez une bonne ou un bon riche? Est-ce qu'il y a des mauvais riches? Mais d'ailleurs, en fait, c'est quoi être riche aujourd'hui? Pour être sûr de trouver les réponses à ces questions, la sociologue Camille Erlin-Giray est allée s'immiscer dans les relations très intimes entre les gestionnaires de fortune et leurs clients, forcément très fortunés. Dans cet épisode, on ne va pas parler de thunes. Non, on va parler plutôt de patrimoine, d'actifs financiers et d'ISF ou d'IFI. Mais surtout, on va bousculer une très très grosse somme d'idées reçues et de préjugés. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Camille Erlin-Giray. Camille, tu es sociologue et tu as tout simplement écrit un ouvrage qui s'appelle « Rester riche ». C'est paru aux éditions du Bord de l'Eau en 2019. C'est une grosse enquête sur les gestionnaires de fortune et leurs clients forcément très fortunés. Pour commencer, est-ce que tu crois que tu pourrais me dire ce que c'est que être riche ?
C'est une bonne question parce que souvent, on réduit la richesse à une métrique. Et quand on réduit ça à une question de métrique, bah, la question qui se pose, c'est celle du seuil. À partir de quand est-ce qu'on va mettre le seuil pour dire ces gens-là sont riches et pas les autres? C'est une question qui est un peu vertigineuse puisque je pense qu'il y a beaucoup de réponses possibles et qui peuvent se justifier. Et l'autre manière de prendre la question « c'est quoi être riche ?», c'est peut-être un volet plus sociologique, en tout cas qu'ont beaucoup plus creusé les sociologues, c'est de se dire « on va travailler sur des styles de vie ». Être riche, c'est prendre des vacances à Saint-Barth, c'est avoir ses entrées dans des clubs privés, c'est avoir un chalet à la montagne plus une résidence au bord de mer. C'est sûr que ça avait été déjà pas mal défriché. Et donc, je voulais pas non plus refaire ça parce que il y avait quelque chose qui restait dans l'ombre, c'était l'argent. Et pour moi, les économistes qui avaient bien approprié le volet inégalité, qui avaient travaillé sur la métrique, avaient loupé un peu les styles de vie et les sociologues avaient un peu loupé les dynamiques d'accumulation. Donc, moi, être riche, je l'ai pris comme une manière singulière de faire travailler son argent, de faire travailler son capital. Je sais pas si je suis claire, mais du coup, ce qui m'a intéressé, c'est les modalités pratiques, très concrètes, de comment on administre son patrimoine. Alors, ça paraît un peu grandiloquent dit comme ça, mais c'est tout simplement le rapport à l'argent des personnes fortunées, la manière dont on s'y rapporte, la manière dont on est catégorisé, soit par l'État, soit par les autres. Enfin, c'est tout ça qui participe, en fait, à construire ce qu'on pourrait appeler être riche.
Moi, j'ai vachement aimé ton bouquin parce qu'il y a pas mal de clichés, on va le voir, qui volent en éclats. Alors, évidemment, tu as dû rencontrer pas mal de gens très riches pour faire ton enquête. Et puis, tu t'es basé aussi sur des statistiques, notamment les statistiques de l'INSEE, ce qu'on appelle le décile 10, c'est ça ?
Oui, les déciles, c'est l'idée qu'on va diviser les ménages en 10 classes. Et donc, quand on prend les patrimoines, ça veut dire qu'on va opposer, par exemple, les 10% qui ont les patrimoines les plus conséquents aux 10% qui ont les patrimoines les moins conséquents.
Donc, le décile 10, c'est le top du top.
Ouais, voilà.
Mais c'est
les 10%, mais encore une fois, c'est une catégorie très hétérogène. Alors,
c'est très varié parce que je crois que ça part de 600-800 000, ça va jusqu'à 72 millions, c'est ça?
Oui, et encore, ça, c'est dans l'enquête. On a toujours un problème pour documenter les gros patrimoines, y compris à l'INSEE.
Mais t'as jamais rencontré de milliardaire?
Voilà. Après, ça, c'était un peu un parti pris aussi de se dire, quand on pense à la richesse, on pense tout de suite au classement des 500, on pense à des choses qui sont très très loin, et c'était aussi dire la richesse, ça peut aussi être plus proche.
Ça peut être ton voisin à Paris, si t'habites
voilà.
À Paris.
Et donc je pense que c'était un parti pris aussi de dire que je vais pas m'intéresser qu'aux super riches. Je pense que le max que j'ai rencontré, c'est quelqu'un qui avait une vingtaine de millions.
Alors première remarque, non seulement faut les rencontrer ces gens, ce qui est pas toujours évident quand on est sociologue et qu'on ne fait pas partie de cette classe-là.
La condition, c'est que ça a seulement marché quand je passais par un réseau de proches. C'est-à-dire que c'est pas mon premier cercle, mais c'est quelqu'un qui est quand même suffisamment proche de moi pour s'embêter, entre guillemets, à aller solliciter une de ses connaissances sur un sujet, encore une fois, intime. Donc, il doit y avoir un double lien de proximité. C'est quelqu'un de proche de moi et c'est quelqu'un qui est proche de la personne. Et c'est que à cette condition-là que ça a marché. Le bouche à oreille, ensuite, c'est beaucoup ce qu'on fait en sociologie. Ça a pas marché. Donc, ça montre quand même que c'était assez conditionné à chaque fois
Un lien de confiance, quoi.
Ouais.
Faut que tu sois coopté, faut que il y ait quelqu'un qui fasse une passerelle et qui soit tout à fait dans les petits papiers.
Et après, c'est un enjeu de présentation. Et c'est pour ça que dans les entretiens, on me dit pas tout, évidemment. Et ça, c'est intéressant à analyser. Mais je parlais toujours du patrimoine. Il y a des mots, hein. Je sais pas, on va parler fric, on va parler thunes. Je disais, on va parler de votre patrimoine, de votre histoire patrimoniale. Et donc ça, déjà, c'est plus...
C'est
ça
plus
fait
noble.
Un peu moins peur, même si, encore une fois, je mettais beaucoup en avant le fait que ça allait être intime. Ce qui m'a aidée, c'est l'ISF. Ils et elles savent bien ce qu'ils payent à l'ISF.
L'impôt
sur la fortune.
C'est devenu l'IFI.
Impôt sur la fortune immobilière. Ce qui est intéressant, c'est que ils peuvent me dire des choses comme... À l'ISF, je paie ça, mais mais en vrai, j'ai plutôt ça. Bon, déjà, ça, c'est des choses qui revenaient. Ensuite, il y a effectivement le patrimoine dont ils parlent. Et peut-être qu'ils peuvent pas toujours mettre une valeur marchande dessus, mais ils ont quand même une idée. Et il y a ce dont ils parlent moins. Typiquement, le financier, c'est toujours plus compliqué à avoir.
Le financier, c'est-à-dire, ça va être des actifs en des actions
Ouais, c'est-à-dire que parler d'un bien qui a une histoire ou qui est inscrit dans une histoire familiale ou une entreprise, ça, c'est des choses qui vont tout de suite sortir, ou des œuvres d'art. Donc, c'est vraiment le patrimoine avec un grand P. Mais par contre, parler de
patrimoine...
son contrat d'assurance vie...
Ouais, il y a un patrimoine noble et un patrimoine moins noble, en quelque sorte.
Pour eux, oui. Pour elle, oui. Ils le mettent pas sur le même plan.
Le ça, cash c'est un et le cash, l'argent qui est sur des comptes ou l'argent qui travaille
ça,
pas.
Ça c'est beaucoup plus dur à avoir. Il y a des enquêtés qui m'ont été présentés. On me disait tu verras, il y a un compte en Suisse. Mais c'est pas grave, ils m'en parlent pas. Ça dit des choses. Encore une fois, on est évidemment, je pense qu'en sociologue on n'est pas naïf. On sait bien qu'on nous dit pas tout en one shot comme ça. Mais donc c'est intéressant quand ça sort et quand ça sort pas.
Alors
juste en Suisse, ils sortaient rarement.
Un petit point, il sort pas parce qu'on a honte ou il sort pas parce qu'on a peur de se faire gauler?
Il sort pas parce que en fait c'est légal d'avoir un compte en Suisse, hein. Mais là c'était de l'argent pas déclaré et donc du coup, clairement on m'en a pas parlé.
Il y a beaucoup de honte à parler de sa fortune, de peur du jugement.
Il y avait beaucoup de stratégies de. En début d'entretien, notamment de prise de distance, c'est-à-dire je suis pas trop dans votre cible, donc je vais vous parler. C'est-à-dire qu'il fallait toujours au départ que les enquêtés m'expliquent qu'ils étaient pas comme les riches, donc qu'ils étaient pas suffisamment riches vraiment pour être au cœur de mon enquête, quels que soient les montants, parce qu'ils connaissent toujours quelqu'un qui est
plus riche que. Ah ouais.
Donc c'est une manière de mettre à distance le sujet. Pour dire, mais donc, du coup, je peux vous en parler plus librement parce que finalement, j'ai pas grand chose à raconter. Moi, vous voyez, je suis pas au cœur, quoi. Et donc, ça, c'est intéressant. Je pense que ça dit quelque chose, effectivement, du fait que ils avaient pas envie que je les mette dans cette catégorie-là. En tout cas, le mot riche, quoi.
Ah, c'est une étiquette qu'on n'aime pas avoir.
Face à moi. Je pense que ça peut varier selon les scènes sociales sur lesquelles ils sont. Je pense que dans les cercles de sociabilité masculine, peut-être que même il y a une performance à mettre en avant. Le fait qu'on a un jet privé et qu'on emmène ses enfants au Brésil pour son anniversaire avec son jet.
Alors, t'as quand même des informations très précises. Les ménages les plus fortunés sont à Paris. 70% des gens qui payent l'impôt sur la fortune immobilière sont en Île-de-France. 50% à Paris et 14% dans le 16e arrondissement. C'est précis, hein, quand même, ils sont tous globalement à la capitale ou pas loin, quoi.
C'est-à-dire, c'est des personnes qui vivent dans les mêmes endroits souvent, et évidemment, il y a cette centralité parisienne et de l'ouest parisien qui se prolonge dans des communes comme des Hauts-de-Seine, hein, d'ailleurs. Donc là-dessus, il n'y avait pas de surprise, c'est une concentration qui est énorme.
Mais du coup, s'ils sont voisins, ils se connaissent ?
Ben, ça, j'ai essayé de le montrer sur les pratiques de contournement de l'impôt, notamment. Où j'ai voulu montrer que c'était pas juste un petit bidouillage individuel et que ça reposait en fait sur les liens de voisinage. Donc ça veut dire qu'on va se réunir entre voisins, voisines, propriétaires pour s'accorder sur des valeurs qui font sens. C'est juste faire des déclarations qui sont dans les mêmes ordres de prix pour les appartements pour éviter en fait qu'il y en ait un qui déclare ça, l'autre qui déclare un truc totalement différent. Et donc, bah voilà, ça montre l'importance de l'espace et l'importance du fait que bah, on habite proche les unes des autres, quoi.
Donc globalement, les appartements dans le 16e arrondissement ne coûtent pas cher du tout.
C'est ça. Enfin, on les déclare un, alors qu'on sait bien qu'ils en valent trois. C'est ça qu'on raconte, ouais. En gros.
Et alors, c'est des gens qui sont vieux. En moyenne.
La richesse est vieille. Enfin,
la richesse est vieille.
C'est classique, mais là, c'est particulièrement vrai dans un contexte où, comme l'a très bien montré Thomas Piketty, on a un retour en force de l'héritage et dans un contexte où l'espérance de vie s'allonge, forcément.
Tu parlais d'une moyenne de 62 ans.
Ouais. C'est dans le décile 10.
C'est dans le décile 10.
La parmi moyenne. Les 10% les plus riches, parmi la moyenne 10... d'âge, ça va être 62 ans.
Ouais, donc quand même.
De la personne de référence du ménage, ouais.
Ouais. Et d'ailleurs, tu fais remarquer, puisqu'on parle déjà de l'héritage, une statistique que j'ai trouvée assez pertinente pour nous tous, hein, les donations intrafamiliales, le fait de donner de son vivant à ses héritiers, ça s'est extrêmement accéléré ces 30 dernières années.
Oui, ça, on le voit très bien dans l'enquête. Mais là, les donations, oui, c'est en pleine explosion. Surtout qu'il y a une politique très, très favorable à ça.
Il y a une défiscalisation.
Ce qui pose plein de questions politiques, qui a été encore allégée récemment. Avec l'argument suivant, qui est de dire, des vieux pleins de fric, pour le dire de façon un peu crue, ça nous sert à rien. Alors, on va défendre l'idée que économiquement, c'est utile que cette fortune, elle aille plus rapidement aux jeunes générations. Mais bon, en réalité, on pourrait aussi défendre un autre système, quoi, où on taxerait plus et ça irait à la jeunesse en général, voire à la jeunesse des hérités, parce qu'évidemment, il n'y a qu'une jeunesse qui voit la couleur de cet argent-là.
Plus la fortune est grande, plus elle a de chances d'avoir été héritée. À partir de 5 millions d'euros de patrimoine, globalement, tu as deux fois plus d'héritiers.
Ah oui, c'est massif. En fait, là, je m'attaque un petit peu à... une opposition qui a cours, notamment dans les médias, qu'on retrouve dans les classements de fortune. Mais une opposition qui est pour moi, qui a juste une valeur méritocratique et de légitimation de la richesse, de dire, il y a les héritiers et les héritières, et puis il y a les entrepreneurs, quoi.
Ça, c'est la grande opposition, quoi.
Et en fait, c'est sûr qu'on est dans des volumes tels que, même quand on a, mettons qu'on a hérité 3 millions, après, si on fait sa boîte avec ses 3 millions, et qu'après, la boîte, elle est cotée 30, évidemment qu'on peut se définir comme un entrepreneur. C'est pas à moi de trancher, c'est juste un rappel de dire attention, cette opposition, elle dit pas grand-chose et le fait massif. C'est quand même une présence hyper importante de l'héritage. Et même pour revenir à l'argent, il y a un dispositif qui n'existe plus sous la même forme maintenant, mais qui était l'ISF-PME. Donc c'est un crédit d'impôt, c'est l'idée de dire... vous investissez au capital d'une entreprise et ça va pouvoir être déduit de votre montant d'imposition, de votre montant d'ISF. Il y a l'IR-PME, il y a l'ISF-PME. Et en fait, beaucoup d'enquêtés me disaient « moi, j'investis au capital des enfants de copains ». Quoi. Donc, dans la création d'entreprises, arriver à lever des fonds, en fait, non seulement on est dans l'incubateur d'HEC, mais en plus, on va pouvoir aller voir les copains de papa... qui vont bénéficier d'une petite
défisque
et on peut lever des fonds. Ça montre un petit peu le contexte qui fait que oui, on peut se prétendre non héritier. Et alors, je pense que ça a un poids considérable.
Alors justement, c'est fou, hein, on retrouve une constante. Les gens ont vraiment du mal à assumer le côté héritage.
Ah oui, ouais, complètement. Mais parce qu'on est dans une société méritocratique... où il faut montrer ce qu'on a apporté, ce qu'on a fait, qu'on travaille beaucoup. Parce qu'on n'est plus dans une société où la rente a une quelconque valeur. En tout cas, on ne peut pas l'afficher tel quel. Ce n'est pas la classe d'être un rentier ou une rentière, quoi.
Alors qu'il y a beaucoup de rentiers, finalement.
Alors oui, il y en a beaucoup.
J'étais étonnée, justement, dans les stats, quand on leur demande, notamment dans le décile 10, ce qu'ils font dans la vie, il n'y a que 6 ou 7% de gens qui disent qu'ils font rien. C'est très peu, parce qu'on pourrait se dire, voilà, t'as des millions, tu peux très bien t'arrêter de bosser.
Oui, il y en a très peu. Hein.
6%, il me semble, c'est vraiment très peu. Alors, tu mets des bémols là-dessus, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui disent qu'ils vont être dans les affaires ou administrer leurs affaires. Et en fait, là, on revient au cœur de ton sujet, il s'agit de faire travailler l'argent, éventuellement administrer son patrimoine, qui est considéré comme une activité.
Être riche, c'est peut-être ça pour moi. Enfin, il y a une barrière, enfin une frontière en tout cas, entre des personnes que j'ai rencontrées, bon, qui se définissent encore par rapport à leur position salariale, par exemple, qui ont en tête leurs revenus, qui vont avoir un rapport au travail qui est peut-être plus commun, plus ordinaire, tel qu'on le connaît, et qui ont le patrimoine à côté. Et les personnes pour qui, justement, ça se mêle complètement. C'est-à-dire que leur patrimoine, ça devient aussi leur outil de travail. Ça se noie dans ce vocabulaire des affaires, à faire fructifier. Et là, pour moi, voilà, c'est encore autre chose. Et c'est... Bon, à mon sens, ça définit une forme de manière de se rapporter à son argent qui n'est pas la même que quand on va encore se positionner beaucoup par rapport à sa position salariale, par rapport à son revenu, même si par ailleurs il y a un patrimoine immobilier et financier qui peut être conséquent à côté.
Bah, on voit que l'argent se distribue pas de la même façon dans le patrimoine. Pour faire un peu le tri dans ce que possèdent ces gens et la façon dont ils le vivent, tu inscris dans ton livre, tu mets un petit graphique très clair. En dessous de 5 millions, les gens ont massivement de l'immobilier en patrimoine, et au-dessus, c'est beaucoup plus des actifs sous forme de placements, d'actions, de l'argent qui travaille et qui est beaucoup moins emmuré dans des propriétés.
Ouais,
ça, c'est vraiment la différence. À 5 millions, en dessous, c'est de l'immobilier, au-dessus, voilà, on passe sur d'autres formes d'investissement.
Sachant que ça, c'est en relatif, c'est-à-dire que même si l'immobilier va représenter moins de 50% des actifs pour les personnes qui ont plus de 5 millions, en volume, ça peut être... 10 ou 20 fois plus que celles et ceux qui ont 1 million.
Ils peuvent avoir des immeubles entiers, oui. Et comme ils sont plus riches, comme il leur reste encore plein de pognon.
L'essentiel, ça va être le financier.
L'essentiel, ça va être le financier. Donc en fait, les très riches, ils ont accès à une forme de placement.
Ils payent pas l'IFI. J'exagère parce qu'ils la payent sur la partie immobilière, mais souvent ils le logent dans des sociétés, donc en fait, non. Mais c'est intéressant du point de vue de l'IFI notamment.
Bah oui, c'est marrant, du coup, l'IFI qui a remplacé l'ISF, ça taxe donc pas forcément les plus riches, ça taxe ceux qui ont donc majoritairement de l'immobilier, qui vont être entre 1,3 million et 5 millions.
Ouais.
Alors, c'est ça qui est marrant, c'est pas parce qu'on est riche que pour autant on se sent forcément compétent, intéressé par son propre argent. Alors, rappelons qu'il n'y a pas d'éducation financière en France. Et qu'on parle pas beaucoup d'argent, ça, on est bien placé pour le savoir. Et donc même des gens qui ont fait des études super longues, ils s'y connaissent pas forcément en fiscalité, en finance. T'écris, toi, l'éducation financière passe par d'autres canaux. C'est ta formule.
Je pense que j'ai été surprise, en fait. C'est un élément de surprise de l'enquête. Je pense que je m'attendais à une socialisation familiale beaucoup plus forte à ces affaires d'argent. Mais comme, en fait, il y a beaucoup de tabous, notamment dans la famille, ça ne va pas du tout être le lieu où on parle d'argent. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est que, j'avais des enquêtés qui me disaient qu'ils étaient perdus, qu'ils n'y connaissaient rien, qu'ils avaient peur de se faire arnaquer parce qu'ils étaient contactés de tous les côtés pour placer ici ou là et qu'ils n'avaient pas forcément leur repère.
Grande méfiance, grande méfiance, on va y revenir aussi, mais grande méfiance.
Grande méfiance dans leurs conseillers. Et en revanche, le réseau de confiance vers qui on va se tourner dans ce cas-là, c'est là où je disais, c'est des sociabilités assez masculines. Donc c'est les amis hommes de la famille, et ça peut rejoindre des pères, des frères, mais pas que. Ça peut aussi être des collègues proches.
Des voisins, des amis,
Des gens proches, en tout cas, avec qui on parle de ça.
Mais même le vocabulaire pour parler de tout ça, c'est je travaille sur ce dossier, je travaille là-dessus, en parlant de placement, de l'argent, de montage financier.
Très scolaire.
C'est un labeur, c'est pas fluide, quoi. C'est pas kiffe à manier mon pognon, quoi.
Faut
mettre le nez dedans, quoi. Faut y aller.
C'est pas fluide. Il y a bien sûr des exceptions parmi les personnes que j'ai rencontrées, mais ce qui m'a frappé, c'est quand même que globalement, ça n'avait rien d'une évidence. Et ça supposait, comme le dit un enquêté, de passer des heures sur certains sujets, sur certaines questions.
Et ça, éventuellement, c'est chiant. Enfin, il y en a qui trouvent ça pas forcément.
Oui, il y en a qui me disent que c'est chiant et qui s'ennuient à leur rendez-vous avec leur conseiller et que ça les passionne pas.
Et pour de vrai, il y en a qui te cachent éventuellement leur compte en Suisse, comme tu disais, mais il y en a qui savent pas exactement combien ils ont parce que ça les intéresse pas plus que ça. Ils savent qu'ils ont plein de thunes, mais.
Après, c'est peut-être ça le luxe d'avoir de l'argent aussi, c'est de pouvoir s'en désintéresser complètement.
peut-être.
Et de ne pas être racontée en permanence. Donc,
ouais.
Donc, ce qui les rattrape, c'est une injonction, puisque ils sont un peu vieux. C'est l'idée de dire, bon, quand même, pas trop que ce soit le bordel pour après. Quand même, ça serait bien que... Bon, c'est là où on voit le rôle aussi des conseillers et conseillères qui les entourent. Ça serait bien que je donne un petit truc à mes enfants. Donc, c'est là où on sent que, voilà, il faut quand même faire un peu bien les choses, quoi.
Ouais, il faut y aller, quoi. Il faut mettre son nez dedans. On peut pas juste kiffer la life. De toute façon, on sent bien depuis le début que... C'est ça qui est très paradoxal, mais c'est pas parce qu'on est riche qu'on peut juste kiffer la life, quoi. C'est faut pas s'afficher comme un gros héritier, comme un glandeur, quelqu'un qui compte pas et qu'on a rien à fiche, quoi. Ça, c'est
cette expression dingue dans gestion de fortune à propos des gagnants et gagnantes du loto. C'était un conseiller qui disait pas préparé. Il et elle n'ont jamais connu les problèmes d'argent. Alors, je trouvais ça complètement lunaire. Mais c'était...
Alors qu'on sait qu'en plus, les gens qui jouent au loto n'ont pas d'argent, justement.
Oui, voilà, pour parler des problèmes qui se posent à celles et ceux qui ont trop, en fait. Et donc, comment on fait quand on a trop? Et donc, s'ils mettaient le terme problème d'argent.
Oui, c'est ça. Les problèmes de riches, c'est quand même des problèmes. Alors, ça nous amène effectivement au premier élément de la relation gestionnaire-possédant, la méfiance.
Heureusement que j'ai eu les deux côtés de la relation, parce que... Les professionnels de la gestion de patrimoine, au contraire, aimaient raconter la très forte proximité à certains de leurs clients, clientes. Le fait qu'ils en savaient parfois plus que les conjointes, ce que je veux bien croire. Qu'il y avait vraiment un lien très fort entre elles et eux. Et quand on va de l'autre côté, on se rend compte que c'est peut-être vrai pour un conseiller, que c'est peut-être vrai pour un enquêté, mais que globalement, les personnes se méfient. En tout cas, même quand il n'y a plus de méfiance parce que ils l'ont appris à travailler avec quelqu'un, il y a toujours le souci de garder un peu la main sur ce qu'il se passe, quoi.
On va s'arrêter un peu sur ces gestionnaires. C'est plutôt un bon métier, hein. Les rémunérations, ça commence à 50 000 euros par an à peu près.
Mm-mm.
Au début, si on junior, et puis ça peut monter jusqu'à 150 000 euros, tu disais.
Ouais.
Voilà.
Je pense que les trajectoires, aujourd'hui, c'est quand même un peu plus bouché. Donc, mais à une époque, oui.
Au début, c'était vraiment une élite. Et puis, il y a eu une professionnalisation. Et maintenant, il y a des universités qui permettent de passer des DESS, à Clermont, par exemple, des formations diplômantes. Mmh. Et puis après, il faut faire son réseau, rencontrer ces gens très riches qui vont te faire confiance. Il y en a qui travaillent en banque, d'autres qui travaillent de façon indépendante. C'est un métier en pleine expansion depuis les années 80. Donc ça, c'est quand même intéressant, parce que ça dit aussi qu'il y a un marché.
Mmh.
Il y a une explosion du nombre de riches, et donc sans doute une explosion du nombre de gestionnaires de fortune.
Voilà, c'est une période aussi où il y a plein de choses qui bougent, et côté marché financier, et dans la technique fiscale. Et donc du coup, forcément, il y a un créneau là aussi à investir, et des nouveaux services à proposer.
C'est des mecs qui bossent, les gestionnaires financiers. C'est quand même des gens qui se tiennent au courant avec tout un ensemble d'autres professions qu'on connaît très mal, des fiscalistes, des spécialistes juridiques, qui sont au courant de la dernière loi qui... Enfin, ça peut changer très vite d'ailleurs.
Oui, bien sûr, je pense qu'il faut se tenir... très, très au courant. Dans les grandes banques, il y a des départements dits d'ingénierie patrimoniale où ils font un peu tout ce travail de fonds juridiques, financiers sur les dossiers. Et du coup, à ce moment-là, le gestionnaire de patrimoine, il est là en première ligne avec le client ou la cliente. Et puis, il a toutes ses équipes derrière lui pour l'appuyer. Et lui, c'est lui qui va transmettre l'information au client, qui va avoir un peu cette relation que, du coup, il présente aussi comme privilégié, quoi.
Il y a ce côté représentation. Et d'ailleurs, tu insistes beaucoup sur, comment dirais-je, l'habit, l'éthos, on dirait, du gestionnaire de patrimoine, qui à la fois, lui-même éventuellement est riche, puisque quand tu es un gestionnaire à succès, on a dit, tu as des très bonnes rémunérations. Mais il n'est pas aussi riche que ses clients. Et ça reflète un peu la relation qu'il essaye de créer avec son client. Tu dis... servant sans être servile, qui serait un peu la relation qu'on retrouve d'un majordome très capé, par exemple, avec des gens super riches. Il doit se faire respecter et en même temps être au service d'eux. Il doit adopter un peu les codes en montrant qu'il est un peu en dessous.
Oui, puis je pense qu'il y a un souci de... C'est là où je dis que c'est des gardiens du statut plus largement. C'est pas juste l'idée de « on va faire fructifier votre capital », c'est « on va vous rappeler qui vous êtes et vous n'êtes pas n'importe qui ». Et donc du coup, il y a cette idée de gardien d'un statut plus social aussi, où il faut rappeler que ces personnes ont un rang à tenir, en quelque sorte. C'est des relais, ces gestionnaires de patrimoine et de fortune, mine de rien, de logique qui... qui sont assez conservatrices, même s'ils ne le diraient pas comme ça, mais parce que basées sur l'idée de la transmission du capital d'une génération à une autre et du maintien en fait d'une lignée et d'un intérêt familial qui va dépasser même leurs clients ou leurs clientes.
Ce que tu montres, on va y venir, c'est qu'ils ont vraiment une idéologie très très forte en réalité. Est-ce que c'est des gens qui viennent tous d'extraction bourgeoise eux-mêmes ?
Pas du tout, c'est très hétérogène socialement, beaucoup plus par exemple que des personnes qui auraient fait un master de finance ou qui seraient des traders. Il y a une génération où on a un peu les deux extrêmes, c'est dans les années 70-80 où il n'y a pas encore de choses structurées, de diplômes. Les pionniers, soit ils sont rentrés à 15 ans dans une banque et ils ont vraiment fait leurs armes comme on pourrait plus le faire aujourd'hui, monter et gravir les échelons en interne. Et ils ont un peu investi ce créneau à une heure où il n'y avait personne, donc ils ont fait des très grosses carrières. Ou à l'inverse, c'est des personnes qui ont fait les grandes écoles parisiennes et qui, pareil, ont vu qu'il y avait là quelque chose à faire et qui ont joué, bien sûr, de tout leur réseau d'interconnaissance dont ils pouvaient bénéficier. Et ensuite, la deuxième génération, en fait, elle est très différente parce que c'est des personnes qui n'ont pas fait les grandes écoles. Donc, ce n'est pas la grande bourgeoisie parisienne du tout. C'est des personnes qui vont aller sur les bancs de la fac, quand même, faire notamment ce premier DESS à Clermont, qui vont être très techniques, très pointus en finance, très pointus en droit, et qui, eux, vont bénéficier de l'ouverture des premiers départements dans les banques et donc le fait que ce marché, à un moment donné, s'ouvre.
C'est pas mal, ça veut dire qu'il y a quand même une petite filière d'ascenseur social qui est possible dans ce milieu-là.
Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus bouché. C'est-à-dire qu'il y a tellement de générations de diplômés que c'est pas du tout des personnes qui pourront faire les mêmes carrières et ils vont se retrouver dans une banque plutôt dans les départements classiques. Ça va être, par exemple, beaucoup plus difficile d'accéder à des départements dédiés, dits de gestion de patrimoine ou de gestion de fortune.
Ils sont rémunérés comment, en fait, les gestionnaires de fortune par leurs clients ?
Bon, alors, il y a les salariés des banques. C'est une énorme partie. Et sinon, pour les indépendants, c'est beaucoup de commissions, de rétrocessions sur la partie gestion financière. Ce qui les place dans une position qui est souvent compliquée parce qu'ils sont, en fait, en conflit d'intérêts.
C'est-à-dire qu'ils vont toucher des commissions ?
Ouais, sur les placements. Et en fait, ils m'expliquent qu'ils voudraient se faire rémunérer par honoraire, mais qu'ils ne parviennent pas à l'imposer au client, que le client a du mal à payer pour un conseil à part entière.
Donc on paye son avocat, mais on ne paye pas son gestionnaire.
Voilà. Par contre, dans le modèle importé des États-Unis et qui arrive en France dans les années 2000, du family office qui s'adresse vraiment à la crème de la crème. Donc, il faut, je pense, plus de 20 millions d'euros à peu près de patrimoine pour avoir recours à un family office. Bah, beaucoup de personnes qui disent faire du family office, souvent, ont abandonné, pour le coup, le principe de commission. Et c'est des personnes qui vont être rémunérées par honoraire et qui vont défendre une vision où c'est les chefs d'orchestre. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a, comme on ne met pas tout son argent dans le même panier, qu'il y a 4-5 conseillers bancaires qui sont des gestionnaires de patrimoine aussi. Il y a l'expert comptable, il y a le notaire. Il y a tout ce petit monde et on va orchestrer tout ça.
Bon, alors les entretiens entre gestionnaires de fortune et super riches, ça c'est secret, secret. Comme tu disais, la base c'est la confiance. Et même toi, tu n'as pas pu y avoir accès, même en promettant de changer tous les noms, etc. Et les stagiaires des gestionnaires de fortune n'ont pas non plus accès directement à ces entretiens-là.
Je pense surtout que c'est la zone de pouvoir des gestionnaires de patrimoine et de fortune. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, il y a les techniciens, techniciennes de l'ingénierie. Et eux, la zone où ils sont, c'est le registre de confidentialité avec un client ou une cliente. Là, ça montre voilà, l'importance du client.
Et le gestionnaire fait rempart, en quelque sorte. Le secret fait peut-être partie du statut à conserver dont tu parles.
Oui, oui.
Quand on est très riche, on ne parle pas de son argent, on ne montre pas son argent.
Oui, oui, il y a de ça. Voilà, moi, il y a un conseiller qui me disait, c'est exprès qu'il n'y a pas de plaque sur ma porte. Et il a commencé l'entretien en me disant, vous ne connaîtrez jamais le nom de mes clients.
Mais, c'est vraiment le secret, c'est une dimension de la,
oui, ouais, ouais.
De la richesse, statutairement.
Oui. Oui.
Alors, gérer son argent. Tu consacres carrément un chapitre à ça, je reprends tes mots, c'est une affaire d'homme. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à voir dans plusieurs épisodes de Thunes. En gros, l'argent, quand on n'en a pas dans un ménage, c'est une affaire de femme. C'est la femme qui compte, qui tient les comptes et qui essaie de boucler les comptes, le budget et la fin de mois. Et quand on en a, quand c'est une liberté, c'est clairement plutôt monsieur qui s'en occupe.
Ouais, ça c'était vraiment très frappant et dans l'enquête plus quantitative, dans l'enquête patrimoine et dans les entretiens, c'était très frappant aussi. D'abord, j'ai rencontré surtout des hommes ce qui n'était pas une évidence, en fait.
Alors que tes interlocuteurs, en fait, ça serait plutôt des couples à la base.
Plutôt des couples, ouais.
Parce que les gens sont mariés, hein.
Oui, et puis que...
Dans les classes ordinées, il n'y a pas beaucoup de célibataires, apparemment.
Ouais. Moi, j'ai rencontré souvent des personnes en couple, mais où c'était l'homme qui décidait que c'était lui qui était le mieux placé, en tout cas, pour me parler. Et donc, ce sont des hommes qui m'ont expliqué très directement, vraiment sans détour, le fait que, volontairement, ils excluaient leur conjointe d'une partie des questions d'argent, quoi.
Le MeToo n'est pas du tout passé par là, hein.
Non, il n'y a pas eu le MeToo de l'argent.
Mais là, c'est complètement assumé. Ce que tu me décris, c'est des couples où monsieur dit que lui s'arroge toute la compétence et la connaissance sur l'argent du couple et que madame est exclue. Et madame est d'accord, a priori, elle est au courant qu'elle est exclue.
Oui.
Et cela, elle ne s'en défend pas particulièrement.
Non, tout à fait. Enfin, après, parfois, il y avait quand même des tensions là-dessus, justement. Un couple où c'est quelqu'un qu'on comprenait qui aurait aimé avoir son compte en banque, par exemple, et qui ne pouvait pas.
Carrément, il y a des nanas super fortunées qui n'ont pas leur compte en banque.
Qui n'ont que le compte joint, quoi. Donc,
on voit tout
alors
ce qu'elles font.
L'époux a, lui, d'autres comptes à côté, souvent.
C'est incroyable, hein.
Et après, je pense à un entretien qui est un peu singulier. Mais c'était un entretien qui était tendu et qui était très parlant pour ça, parce qu'on voyait que la conjointe découvrait des choses au fil de l'entretien. Enfin, en tout cas, elle n'était pas au courant, et deux, qu'il y a des choses qu'elle n'avait pas en tête. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui se développent pour les femmes, par les femmes, avec l'idée de reprendre le pouvoir sur l'argent.
Alors, les femmes, elles faisaient un truc parfois chez tes enquêtés, moins maintenant que c'est numérique, mais c'était la déclaration d'impôts. Et ça nous fait une formidable transition, puisqu'on arrive au cœur de la turbine, au truc numéro un qui fait que les super riches vont faire appel à des gestionnaires. Tu y consacres un chapitre entier, la complainte de l'impôt. Alors là, on est sur tout le discours. Ah là là, en France, on n'aime pas les riches, on les pousse à fuir. Si on les taxe trop, ils s'en vont. Et ça, c'est un discours dans lequel t'as un peu baigné et que t'as exploré, justement. Parce que ça recouvre une réalité un peu plus complexe.
Oui, je pense que c'est un discours qu'on retrouve beaucoup sur la scène politique, un petit peu du coup aussi dans les médias, que s'approprient plus ou moins et les gestionnaires de patrimoine et de fortune et les clients-clientes. Enfin, moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'on avait un peu un discours fiction, quoi. C'est-à-dire un discours qui avait de la force, surtout sur la scène politique, notamment pendant les campagnes électorales. Mais les chiffres de l'exil fiscal, comme on l'appelle, c'est 0,1% des redevables de l'ISF. Ça répond très, très peu aux réformes fiscales. Et quand on lit un petit peu de travaux de sociologie sur la mobilité des élites et des classes supérieures, comme cette mobilité internationale est devenue la norme, c'est très, très compliqué d'attribuer cette mobilité à la seule fiscalité.
Oui, en fait, si les gens vivent entre New York, Stadt, Londres et Paris, c'est pas forcément pour des questions fiscales, ça peut être simplement parce qu'ils ont des boîtes partout, leur chalet ici est mis, et etc.
C'est-à-dire que soit ils sont pas internationalisés, ils ont 70 ans, ils payent l'ISF, et en fait, il y a quand même très peu de chances qu'ils bougent. Ou alors leur conseiller va vraiment leur déconseiller, quoi. Va leur dire que c'est pas une bonne idée parce que ça va être plus coûteux pour leur vie. Parce qu'ils ont ils ont leurs enfants peut-être encore en France, ils ont
leurs habitudes,
leurs habitudes. Ouais. Donc je veux dire, le public de l'ISF est pas du tout le plus susceptible de bouger. Le public qui bouge, c'est un public de cadres, c'est effectivement un public peut-être qui monte des boîtes, etc. Mais là encore, soit on est, en tout cas dans les problématiques ISF, soit on est sur des publics qui font partie de cette élite très mondialisée. Et donc, je dis pas que la fiscalité joue pas, mais pour moi, c'est compliqué de parler d'exil. Donc, en fait, c'est juste qu'il y a un décalage entre un style de vie qui est très mobile, qui est très internationalisé, et la manière dont on conçoit l'impôt comme attaché, l'essentiel des ménages en France, hein, à une résidence principale.
C'est oui, et le super riche ou la super riche sédentaire, un peu âgée du 16e arrondissement...
Ne va pas bouger.
Non, voilà.
Ça l'empêchera pas peut-être de tenir ce discours sur tout le monde part, je le vois autour de moi. Nous aussi, il faudrait qu'on parte prendre notre retraite au Portugal. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. C'est-à-dire que pour que la fiscalité constitue un motif suffisant, voilà.
Ouais, on n'y est pas, quoi. Ouais.
En tout cas, il faut autre chose quand même que la fiscalité pour bouger. Sinon, j'ai des anecdotes très rigolotes de mes gestionnaires de fortune sur des personnes qui sont parties et qui ont fait une dépression nerveuse. Enfin, j'ai une anecdote là-dessus sur un client qui est parti au Maroc et qui s'est ennuyé, qui a fait une dépression et puis qui est revenu en France. Les gestionnaires de patrimoine et de fortune n'aiment pas les choix qui ne sont pas réversibles. Et donc, des vrais exils, si tant est que ça existe, ils ne vont jamais le conseiller. Et souvent, ils m'expliquent que c'est une cata.
Ils ont toute une petite morale. Hein. Mais à la fin, ils sont en tout cas sollicités par leurs clients donc, sur ces questions fiscales. Parce que malgré tout, s'il n'y a pas d'exil fiscal réellement, il y a une complainte de l'impôt, comme tu dis. Alors c'est marrant parce que c'est un peu la même complainte que tout le monde a. Hein. C'est, en gros, ce n'est pas que les gens n'aiment pas payer les impôts, ce n'est pas forcément ça. C'est qu'ils trouvent que ça ne devrait pas aller là, qu'ils ne font pas confiance à la façon dont ça va être employé par l'État, redistribué. Ils trouvent que ça devrait être plus comme ci, plus comme ça. Il y en a plein d'ailleurs qui préfèrent donner à des œuvres directement pour pouvoir défiscaliser en même temps plutôt que de donner directement aux impôts, quoi.
Quand on donne à l'État, on accepte en un sens de perdre son pouvoir sur cet argent, c'est-à-dire qu'on devient, anonyme, on devient un contribuable parmi d'autres. Et donc on perd son pouvoir sur son argent, alors que quand on met de l'argent dans la boîte du fils de son ami, on va devenir actionnaire d'abord, et puis on ne perd pas le pouvoir sur cet argent. Et c'est pareil pour les dons, et c'est pareil pour la philanthropie. Donc oui, je pense qu'il y a une volonté de passer outre l'État, de dire aussi que l'État alloue mal, effectivement, les moyens, et qu'on peut faire mieux. Et donc, c'est toujours mieux de choisir où est-ce qu'on... Et donc, ça, c'est permis complètement, en plus, par la fiscalité, qui est
c'est
très
avantageuse
et qui encourage tout à fait ça. Moi, ce qui m'a surprise sur l'impôt, c'est ce rapport peut-être très policé que j'attendais pas. C'est-à-dire, oui, c'est bien les impôts, je paye des impôts, je fais ma part. Donc, c'est, voilà, policé qui n'interdit pas de s'autoriser plein de formes de contournement.
Ah ben, bah, il gruge quand même. Hein.
Il gruge, oui. Il gruge, c'est pas forcément stigmatisé, même quand on est...
Il gruge pas grossièrement. Il gruge, ouais.
Ils le disent, c'est raisonnable. C'est d'ailleurs, ça peut tenir dans une argumentation peut-être face à la justice. Donc, on est dans des formes de contournement complètement acceptées, complètement tolérées. La plus courante, celle qui revenait vraiment dans tous les entretiens, c'était le fait de sous-évaluer ses biens dans la déclaration d'ISF. Donc ça, c'était ultra, ultra fréquent.
Bah, ce qui est assez facile en plus, si on en hérite par exemple, on ne le fait pas réévaluer. 20 ans plus tard, le bien a pris je ne sais combien de pourcents, mais bon, bah, personne ne va vous en vouloir éventuellement pour ça.
Oui, oui, tout à fait. Et puis, vendre une résidence secondaire et pour que, comme vous la vendez un peu plus d'un million, bah, vous allez tomber sur des acheteurs qui vont se retrouver aussi à payer cet impôt sur la fortune. Donc, vous négociez la vente avec un dessous de table important. Ça vous permet d'être cohérent par rapport à votre déclaration passée pour les personnes qui vendent. C'est-à-dire que sur le papier, elles ne vendent pas beaucoup plus cher que les évaluations qui étaient faites. Ça permet de diminuer l'impôt sur la plus-value pour la personne qui vend. Et puis, ça permet à la personne qui reprend de dire: je l'ai acheté tant, donc je vais le déclarer tant. Donc ça peut être soutenu dans des transactions comme ça immobilières, ça peut être soutenu dans des petites réunions informelles de voisinage où on va s'accorder sur la valeur des biens, et ça peut être soutenu parce que les biens, ils sont souvent détenus familialement. Donc vous héritez d'un immeuble avec vos frères et sœurs, vous allez vous accorder avec vos frères et sœurs sur combien vous déclarez les différents appartements pour, là encore, qu'il y ait une cohérence et pour pas faire trop tiquer l'administration fiscale. Mais là encore, ça veut dire que ce sont des sommes conséquentes qui, mine de rien, échappent à l'impôt, sans qu'on aille chercher des montages qui existent aussi, mais pour une frange, pour le coup, beaucoup plus fortunée déjà.
Oui, après, c'est des montages à base de holding. Il faut avoir plus de savoir-faire financier.
J'ai essayé de mettre en avant, c'est le fait que les gouvernants avaient pleinement participé à la construction de politiques, ce que j'appelle des politiques d'évasion fiscale. C'est-à-dire que très légalement, il est possible d'échapper à l'impôt. Il n'y a pas besoin de s'exiler. Il n'y a même pas besoin maintenant d'avoir recours à des comptes cachés. Et comme l'a dit lui-même un gestionnaire de fortune, la France est un paradis fiscal. Et bon, aujourd'hui, ça paraît surprenant que, je ne sais plus, c'est sorti récemment que la France comptait plus de millionnaires après les États-Unis, alors que c'est un tout petit pays. C'est le fruit aussi de politiques où on déroule le tapis rouge sous couvert de l'idée que ça va ruisseler.
Pour faire, par exemple, des montages un peu plus compliqués, est-ce que c'est les gestionnaires réellement qui ont une compétence pour aider à faire ces montages de défiscalisation, d'optimisation, etc. Ou est-ce que c'est les gens eux-mêmes qui ont une compétence qui leur permet d'utiliser tous les outils juridiques pour optimiser ?
Ouais, alors ça, je pense que c'est à la croisée des deux. Alors, s'ils t'entendent dire défiscalisation, ils vont un peu sauter au plafond. La défis, c'est vraiment pour le pauvre, quoi. C'est des trucs, souvent, où on se fait banane. Ils mettent ça très, très à distance. Donc, eux, c'est de l'optimisation. Donc, ça passe évidemment par les conseillers conseillères. Mais c'est aussi cet enquêté qui va me raconter que, comme il est au conseil d'administration de l'entreprise familiale, et qu'à cette occasion, il rencontre ses frères, les sœurs n'ont pas été conviées, et ben, ils vont discuter de leur patrimoine et de la manière dont ils l'administrent, et que ben, comme le frère aîné a créé une holding dans laquelle il a mis et ses biens immobiliers et les parts de l'entreprise qu'il détient en tant qu'actionnaire minoritaire, et ben, en fait, les autres frères vont très rapidement faire la même chose.
Comme ça, ils n'ont pas l'IFI à payer, etc.
Voilà,
etc.
Comme ça, il n'y a pas de... Ouais.
Il y a vraiment une tendance naturelle pour faire travailler son argent ou se débrouiller bien avec son argent, pas tant à dissimuler, voler, se mettre dans des situations de danger, mais plutôt à faire des choses qui soit ne se voient pas, soit passeraient s'il y avait un contrôle, et qui du coup est comme fiscalement acceptable, pas moralement pardonnable, quoi. C'est un peu ça. Mmh. Hein.
Oui, ça du côté des enquêtés et aussi du côté des professionnels. C'est-à-dire que souvent on est un peu perdu dans les affaires d'évasion fiscale parce que on a l'impression que les experts qu'on entend commenter les Panama Papers, Paradise Papers disent ah bah tout est légal, mais qu'en même temps quand même il y a une partie où on se rend bien compte que c'est pas tout à fait net. Bon, moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y avait un travail sur la limite du droit, sur les zones floues, sur les zones grises. Tout n'est jamais défini dans un texte de loi. Et ce que font les professionnels qui travaillent en particulier sur les aspects fiscaux, c'est un travail d'anticipation, un travail d'ouvrir des zones grises pour pouvoir faire des montages. Et en fait, finalement, on retrouve un rapport à la fiscalité qui va être très proche d'un rapport aux actifs financiers. C'est-à-dire qu'on fait un pari qui se tient juridiquement et dont on va supposer qu'il va être défendable si l'administration fiscale le voit et si à un moment donné le client se retrouve dans un tribunal. Et donc on est plus sur des questions d'argumentaire. On n'est pas dans un cadre c'est légal, c'est pas légal. Justement, il y a du jeu quand on peut pas dire à l'avance si c'est légal ou si c'est pas légal.
Alors moi, ce qui m'a vachement plu dans ton livre, c'est que ce que t'as observé, et ça c'est absolument fascinant, c'est que ces fameux gestionnaires, en réalité, peut-être même sans le savoir, ils sont porteurs d'une idéologie très forte. Il y a un truc déjà très clair, c'est qu'il y a des clients qu'ils aiment pas. Alors par exemple, le client qu'ils aiment pas, c'est la cigale. Le mec qui va tout claquer. Ça, ils aiment pas du tout. Et l'autre client qu'ils aiment pas, c'est celui ou celle qui accumule. Ça, ils n'aiment pas du tout non plus. Est-ce qu'on peut partir de là, peut-être, pour,
ouais, tout à fait.
Pour essayer de comprendre leur idéologie sous-jacente?
Tout à fait. C'est deux images de clients repoussoirs. L'un qui s'agrippe trop et l'autre qui claque tout.
Le jet-setter, alors ça, ils n'aiment pas.
Pour celui qui claque tout, évidemment, voilà, c'est à la fois pas, c'est un gage de non-sérieux. Et puis, de toute façon, ça anéantit leur rôle, puisqu'au bout d'un moment, s'il n'y a plus de capital à gérer... ils servent plus à rien. C'est moins évident pour la personne qui veut pas se dessaisir. Mais, comme je disais, eux, ils vont essayer de préserver un intérêt qui est toujours celui d'une famille, dont ils vont participer d'ailleurs à définir les frontières. Et donc, il faut qu'ils apprennent aux clients à se dessaisir aussi.
Alors, ce qu'ils adorent, un des premiers critères, c'est la transmission. On commence par ça. Hein.
Oui, tout à fait.
On a un nouveau client. Éventuellement...
Il faut qu'il prévoie sa mort.
Voilà. Alors, c'est
tout. Bonjour. Il organise
ouais,
sa transmission.
Ouais, ouais. C'est très mal de pas le prévoir. Hein. Ça, c'est vraiment garder l'argent pour soi, s'en fiche de ses héritiers, c'est pas bien. Et éventuellement, on va faire de la pédagogie pour provoquer, ou en tout cas inciter très fortement aux donations, au système d'assurance vie avec, pareil, des systèmes d'optimisation.
Tout à fait.
Tout ce qui est à disposition pour qu'il y ait une dynastie, en fait, qui commence à se former.
Ouais, tout à fait. L'idée, c'est vraiment préserver le capital au-delà du seul client. Et c'est là où, comme tu l'as dit, derrière des personnes qui vont pas du tout revendiquer de collusion avec les clients, d'être au service du grand capital ou ce genre de choses, bah en fait derrière il y a quand même une logique très aristocrate, très conservatrice où ce qui va primer c'est effectivement la transmission d'un patrimoine de génération en génération et c'est ça qu'on va essayer de valoriser, quitte à s'opposer à un client
Il y a deux choses importantes. Créer une dynastie, ou en tout cas conserver l'argent dans cette lignée familiale, ce qui est complètement à l'envers de toutes les valeurs dont on a parlé au début, hein. Du travail, oui. De l'entrepreneuriat.
Oui,
c'est ça qui est fou, en fait. C'est ça qui est complètement paradoxal.
Temps, c'est des paradoxes qui sont repris tout en haut de la scène politique, hein. C'est-à-dire que Emmanuel Macron n'arrête pas de nous parler du travail, de la valeur travail, de la méritocratie, etc. Et pourtant, il fait des lois où il favorise, par exemple, la transmission d'une entreprise d'un père à un fils, quoi. Donc, bon, ces incohérences, on les trouve vraiment sur différentes scènes, quoi.
En tout cas, il y a vraiment l'idée qu'on va favoriser, inciter à la dynastisation, en quelque sorte, de l'argent. Et puis, le deuxième truc, c'est qu'il ne faut pas que l'argent reste inerte. Il faut que l'argent fasse de l'argent. Mm. Ça, c'est important aussi, hein.
Oui, tout à fait.
On ne peut pas juste le dépenser.
On ne peut pas juste le dépenser ou juste le garder. Il faut avoir des projets, il faut l'investir émotionnellement. Il y a quand même cette idée. Il y a un conseiller qui me disait, voilà, moi, ce que je dis à mes clients, notamment quand ils ont une arrivée soudaine d'argent, que ce soit par une cession de parts de société ou que ce soit par un héritage, c'est on n'y touche pas à un moment donné et on va laisser décanter les choses. Et peut-être dans 6 mois, une fois que vous aurez décanté vos projets, on pourra reparler de ce qu'on va faire de cet argent. Donc c'est l'apprentissage justement d'une bonne distance à l'argent, ni trop près, il ne faut évidemment pas tout claquer d'un coup, ni trop loin, c'est pas bien d'être, comme certains enquêtés, trop détaché de son argent. Il faut vouloir le faire travailler, il faut vouloir en faire quelque chose pour soi aussi. Et donc pas que pour éviter échapper à l'impôt, ça ils n'aiment pas du tout ce type de client non plus. Pour eux l'impôt c'est, l'optimisation c'est, ça ne peut jamais être la fin. C'est toujours un moyen. Ils aimeraient que ce soit jamais la fin et que ce soit toujours le meilleur moyen d'arriver à construire un projet patrimonial, quoi. Il faut qu'il y ait un vrai projet pour soi, c'est-à-dire vous aimez la montagne, vous allez
un projet positif.
Un projet positif, un projet entrepreneurial, c'est le dream. Vous aimez le soleil, on va vous trouver une jolie maison au soleil. Réfléchissez à ce que vous voulez, comment vous vous projetez, où vous vous voyez, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie. Et en fait, autour de ça, on va bâtir tout le reste. Et c'est là où je dis que l'impôt est censé arriver après. Mais c'est rarement le cas en pratique, encore une fois. Mais ça, c'est le beau rêve du gestionnaire de patrimoine, c'est que l'impôt arrive après. C'est-à-dire qu'au moment où on a construit un projet autour d'autre chose, on va chercher la manière où on peut payer le moins d'impôts pour faire ce projet. Mais ça vient après.
Il y a aussi une façon de se protéger dans cette façon de mettre du
Bien
sens
sûr.
Dans l'argent. C'est-à-dire que acheter, par exemple, de l'art que vous appréciez, même s'il vaut rien dans 5 ans ou 10 ans, vous aurez une toile que vous aimez. Enfin, acheter un chalet à la montagne, si vous aimez la montagne, si le placement se casse la gueule, en tout cas, au moins, vous aurez
tout
un chalet
fait.
À la
pour
montagne.
Pour eux, du coup, c'est pour ça que c'est à la fois le bon sens qui parle. Et puis, le fait de ne pas viser, par exemple, seulement un montage purement fiscal, ça évite ce qu'ils craignent, c'est-à-dire l'abus de droit. L'abus de droit, c'est quand on fait un montage qui a pour seul but d'échapper à l'impôt.
Ça, c'est répréhensible.
Ça, c'est répréhensible. Mais du coup, on voit que on est sur des argumentaires très fins. Est-ce que vous avez fait ça pour seul but d'échapper à l'impôt ou est-ce que vraiment il y avait un objectif de transmission? Si vous arrivez à montrer, par exemple, que en fait, ça avait du sens soit pour votre entreprise, soit pour transmettre votre argent, ça ira. Si par contre, vous n'arrivez pas à montrer ça, ça peut passer sous le coup de la justice.
Donc c'est là qu'on se rend compte que vraiment, l'argent, c'est pas des chiffres. Hein. C'est des histoires qu'on raconte et qu'on se raconte, quoi.
Oui, beaucoup, ouais. Ouais.
Il y a des conflits.
Il y a beaucoup de conflits.
Parce qu'ils peuvent pas aller trop loin non plus, les gestionnaires, sinon ils peuvent se faire virer ou ils peuvent se faire.
Alors il y en a carrément qui ont investi le créneau du psychologique complètement et qui se sont spécialisés là-dedans et qui font des sortes de thérapies familiales où ils passent une semaine avec la famille en vacances. Ils voient d'abord la sœur, puis après l'autre sœur, puis après le frère, puis après le père. Ils font des jeux de rôle, ça peut aller très très loin. Mais j'étais très surprise quand je me suis retrouvée dans une observation à l'Association française de Family Office, qui est censée être un petit peu le Graal, puisque donc c'est que du Family Office.
Donc c'est que du 20 millions et plus.
Ouais, et moi je m'attendais à un truc très pointu et en fait on a parlé psychologie, secret et donc le top du top c'était la gestion de conflits familiaux. C'est ça qui avait atteint qui semblait être une des tâches les plus nobles aujourd'hui dans le métier. Donc on retrouve cet idéal de confidentialité, de rapport hyper privilégié au client. Donc ils avaient invité quelqu'un qui racontait comment il avait résolu dans le secret et de façon hyper discrète évidemment un gros conflit chez Hermès, ce genre de choses. C'était le top du top.
Il y a un conseiller qui t'a dit, moi je gère pas de l'argent, je gère des gens qui ont de l'argent.
Oui, parce qu'en fait, ils estiment qu'il y a beaucoup d'argent qui va partir si on gère pas ces conflits. Enfin, qu'en fait, si on dénoue pas les bons nœuds, qui parfois se jouent sur des trucs d'enfance, et ben c'est là où on va mettre en danger le patrimoine familial. Il y en a un qui me dit, voilà, on a beau être hyper fin sur la technique fiscale, prévoir tel et tel dispositif pour être dans les clous, etc., etc. Le lendemain, il y en a un qui a divorcé, il y a l'autre qui a décidé qu'il arrêtait ses études et qu'il allait élever des brebis. Et donc, en fait, ça fout encore plus le bordel.
Et pour eux, c'est vraiment, enfin, tel que t'en parles, on a l'impression que c'est hyper important que l'argent se perde pas. Ils n'aiment pas que le capital diminue, que le patrimoine diminue.
Non, ouais, ouais, non, ça fait partie de leur rôle, vraiment. C'est des gardiens de encore une fois, d'un capital qui, pour eux, dépasse souvent le client.
Et ça crée une pression sur les clients? Je veux dire, justement, ils sont amenés, en tout cas, dans cette interaction, à un rôle où ils sont censés rester riches.
Ben, je pense que souvent, ça se passe bien quand il y a, parce qu'il y a une sorte d'alignement autour de... Puis que donner du sens finalement à son argent. Mais oui, il y a des cas où, voilà, où ça ne marche pas. Il y a même des gestionnaires qui m'ont dit qu'ils avaient viré quelques clients. Mais c'est hyper rare.
Parce que les mecs claquent trop.
Oui, voilà, parce que ça ne va pas, parce que ça faisait déshonneur au père. C'est il avait récupéré deux fils et c'était trop. Ça n'allait plus, quoi.
C'est des mauvais riches.
Ouais.
Est-ce que finalement, il y a des bons riches et des mauvais riches?
En tout cas, moi, ce qui m'a intéressé, je reviens à cette histoire de souvent, on réduit la richesse à une question de seuil, de métrique, de combien t'as versus... voilà, parce que les écarts sont immenses, évidemment. Donc, c'est facile de voir que ça. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est tout cet aspect plus normatif. Il y a des bonnes et des mauvaises manières d'accumuler. Et ça, les gouvernants ont très tôt distingué la richesse qu'il fallait taxer et celle qu'il fallait protéger. C'est central dans la construction de l'impôt sur la fortune. C'est pas qu'un impôt où on taxe à partir d'un certain seuil, on taxe la richesse qu'on n'aime pas et on protège à l'inverse une autre, d'autres formes, d'autres manières d'accumuler. Et c'est central aussi dans le travail des gestionnaires de patrimoine et de fortune et c'est central aussi dans la manière dont est géré l'argent. Donc oui, moi je m'intéresse vraiment à tout cet aspect plus normatif où on distingue des bonnes et des mauvaises manières d'accumuler.
Avec des contradictions internes,
oui.
Où l'entrepreneuriat est survalorisé, l'héritage est toujours un peu honteux,
mm-mm.
Mais en même temps, fiscalement
très protégé.
Très protégé. Et même de la part des gestionnaires de fortune et de tous les outils juridiques tout à fait encouragés.
Mm-mm.
Donc il y a une petite contradiction à cet égard.
Ah oui, c'est pas du tout, ça échappe pas aux contradictions. Hein, ouais. On est en plein dedans.
Et mais... puis, comme tu disais au début, les riches n'arrêtent pas de revendiquer qu'ils travaillent. Et en même temps, il faut que leur argent travaille presque encore plus qu'eux, quoi.
Mm-mm. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'est, t'as tout compris.
Ouais, non, c'est assez marrant. Mais c'est assez marrant parce que je me dis que je comprends que pour eux, ce soit pas forcément fun. Ils mm-hmm. se retrouvent avec un rôle, du coup, qui est effectivement pas évident.
Oui, parfois, il y en a un qui hérite, voilà, son père meurt brusquement, il se retrouve à 21 ans, il interrompt ses études alors qu'il est en train de s'éclater aux États-Unis. Et du coup, bah, il rentre en France et il doit gérer un château. Et je pense que ça le saoule, clairement, quoi.
Et peut-être qu'aussi que ceux qui te répondent, c'est malgré tout ceux qui peuvent se présenter comme des bons riches.
Ouais, 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 tout à fait. Ouais, ouais. Les entretiens les plus faciles à négocier, c'est pour les rares cas où, justement, il y a, par exemple, une fortune qui est construite de A à Z. C'est très rare, mais ça existe. Et ça, c'est très facile à négocier parce que la personne est hyper contente de raconter comment elle a fait fortune, évidemment.
Mais ouais, les gens sont contents de... Il y a une petite part d'autosatisfaction. Ils ont enfin un public...
Oui, je crois que c'est un enquêté qui commence l'entretien par vous dire « je vais vous raconter comment j'ai réussi ».
Et c'est quoi le plus gros secret honteux que t'as pu recueillir? Ou en tout cas, une petite part de vérité peut-être qu'on t'a confiée?
Je sais pas, une histoire de gestionnaire qui a été confrontée à un conflit familial et où il y a une des personnes qui gérait... qui a déversé des excréments, je crois, dans son cabinet, enfin, où c'était vraiment, ça partait pipi caca, quoi.
Wow.
Je crois que c'est le summum de ce que j'ai eu. Et c'était une grosse fortune, apparemment très connue.
Parce que la personne.
Enfin, on était voilà, sur un truc assez. Des gens connus.
Oh, mais délirant, quoi. Enfin,
truc un peu délirant, ouais.
Voilà, c'est terminé. Vous avez encore écouté un épisode de Thune. Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel, post-produit par Bastien Bironneau, sur une musique toujours d'Emma Bitson. Et pour que Thune continue, je crois que vous savez quoi faire. Un petit clic sur notre Insta et surtout sur notre cagnotte Tipeee, T-I-P-E-E, que vous pouvez aussi trouver via Google, pour vous abonner. Bah oui, même avec un ou quelques euros par mois, afin que l'aventure continue en toute indépendance. Merci beaucoup, à très bientôt. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thunes, vous savez qu'on a besoin de thunes. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thunes, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thunes Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thunes continue, je compte sur vous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.